Je suis totalement
bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. L'épidémie d'Ebola, déclarée officiellement le 17 août dernier, continue encore à faire des victimes dans la partie orientale de la RDC. Selon les données révélées par le ministère de la Santé lors du dernier point de presse, tenu le jeudi 13 septembre dernier, plus de 70 cas sont enregistrés, y compris le personnel de santé. Le nombre de personnes décédées s'élève, selon les mêmes rapports, à 31 et sur 108 contacts sous suivi, 349 ont été sortis et 159 sont restés. Parole aux auditeurs, fait le point de la situation avec vous, chers auditeurs, ainsi qu'avec notre invité, Dr. Félix Lumbi Kabangé, ministre de la Santé publique. La question au cœur du débat, que proposez-vous pour éviter la propagation de cette fièvre hémorragique à travers le pays? Réagissez déjà en composant le 081 890 6315. Notre standard est déjà ouvert et inscrivez-vous pour participer à cet échange et partage. Vous pouvez également nous rejoindre à notre courriel pa@radiokapi.net. Titi Poutou, Willem Lungamba, Thierry Lamegi réalise cette émission et J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision d'Eben Kabamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons en ligne Dr. Félix Lumbi Kabangé, ministre de la Santé publique. Bonjour Dr. Félix.
Bonjour, merci.
Voilà, docteur, d'entrée de jeu, quelle est la situation épidémiologique actuelle de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola?
Merci beaucoup. Donc, à ce jour, nous avons 73 cas qui sont notés et sur les 73 cas, nous avons 14 cas qui ont été confirmés au laboratoire. Nous avons dans le même temps 615 contacts qui ont été suivis jusqu'à ce jour, dont 387 sont sortis, 228 à suivre. Donc actuellement, il y a encore 228 contacts sous surveillance au niveau de Giro et de Viadana. Et pour la journée d'hier, 211 ont été vus personnellement et physiquement. Et il faut signaler également que par rapport au nombre de décès, nous comptons à ce jour 32 décès.
Alors, est-ce que ces résultats découlent effectivement d'une compilation et analyse de données prospectives et rétrospectives, c'est-à-dire avant et après la déclaration officielle de l'épidémie?
Effectivement, comme je l'ai dit dans la conférence de presse, en fait, nous avons déclaré l'épidémie le 17 août 2012. En fait, quand on a déclaré l'épidémie, c'était par rapport au cas qui venait, au premier cas qui venait d'être confirmé au ministère. À partir de cette date, nous avons commencé à suivre régulièrement tous les cas, mais l'équipe, le comité international de coordination scientifique et technique qui est basé au niveau de ICIRO a commencé la documentation. C'est-à-dire, on a commencé à rechercher les anciens cas, à rétablir l'arbre de transmission, et c'est dans cette documentation, dans cette étude de rétrospective, que nous nous sommes rendus compte que l'épidémie aurait commencé au mois de mai. Et c'est justement ce qui a permis de pouvoir identifier tous les cas rétrospectifs, aussi bien les cas que les décès, et parvenir justement à ce résultat que nous avions présenté de 69 lors de la conférence de presse et qui est actualisé chaque jour. À ce jour, nous sommes à 73, donc je confirme que c'est la situation rétrospective et prospective.
Alors, mis à part les zones de santé d'Isiro et de Viadana, est-ce que la fièvre hémorragique à virus Ebola a-t-il été signalée dans d'autres zones de santé de la province orientale ou peut-être ailleurs?
Oui, c'est vrai que nous avons eu des cas qui ont été signalés à Dungu pour la province orientale. Nous avons eu des cas qui ont été signalés à Dungu, à Pawa, dans d'autres zones de santé au niveau de Rungu. Nous avons eu des cas qui ont été signalés au niveau de la zone de santé de Nyarande, notamment à Mahadipor. Nous avons eu, ça c'est pour la province orientale, également à Faradje. Oui, mais nous avons également eu d'autres cas, notamment à Bukavu, à Beni, à Goma, même à Kinshasa, des cas ont été signalés, mais dans tous les cas, nous avons eu à faire des prélèvements et les résultats se sont avérés négatifs.
Nous avons les auditeurs en ligne qui se sont inscrits pour participer à cet échange et partage. Nous avons déjà Maître Machaka qui est à Lubumbashi et Emmanuel Akikuit. Maître Machaka, vous avez l'honneur d'ouvrir les débats. Bonjour.
Bonjour Monsieur J.R. et bonjour à l'invité.
Alors que proposez-vous pour éviter la propagation de cette fièvre hémorragique à travers le pays?
Premièrement, notre gouvernement, plus précisément les services de santé, doit faire son travail comme il faut. Puisqu'aujourd'hui, les gens se déplacent par-ci, par-là, et il y a ceux qui quittent à l'endroit où il y a cette fièvre-là pour aller ailleurs. Il faut que les services de santé puissent faire leur travail. Je peux vous donner l'exemple ici chez nous à Lubumbashi, à la SNCC. Il y a les services de santé qui en garde là-bas. Vous leur donnez seulement de l'argent, ils ne savent même pas. L'examen pour vous savoir si vous êtes contaminé avec telle ou telle maladie, qui peut aller contaminer d'autres gens là où vous partez. Ils mettent seulement les choses sur votre billet de voyage et vous partez. Même si vous avez cette maladie-là, vous allez contaminer les autres là-bas. Ça, c'est la première prévention que notre gouvernement doit prendre. La deuxième prévention, il faut d'abord savoir la cause de cette fièvre-là. Ça provient d'où? Afin que notre gouvernement puisse prendre des dispositions afin d'arrêter cette fièvre-là. Si ça devient, ça provient de l'eau, il faut savoir comment soigner cette eau-là que la population prenne. Si ça vient, si c'est tel environnement, il faut savoir comment entretenir l'environnement afin que la fièvre-là puisse s'arrêter.
Voilà, Maître Machaka, nous résumons vos propos. Donc, votre inquiétude tourne autour de la faiblesse de la surveillance de maladies au niveau de nos frontières. Il faudrait qu'on puisse renforcer la surveillance. Ça pourrait être une des solutions définitives, durables, pour éviter la propagation de cette maladie. Vous avez évoqué le cas de Lubumbashi, où sûrement, quand il y a des mouvements, des mobilités, on se rend compte que c'est avec légèreté qu'on accorde des autorisations de mobilité ou de mouvement. Merci, Maître Machaka. Voilà.
Merci,
Maître Machaka. Emmanuel, vous êtes à Kikuit. Bonjour. Voilà, Emmanuel, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, allô?
Oui, Emmanuel, vous êtes avec nous. Que proposez-vous pour éviter la propagation de cette fièvre hémorragique à travers le pays?
Oui, en fait, j'ai parlé de mes propositions, mais j'ai une préoccupation à vous donner.
Oui, allez-y, allez-y.
Oui, je voulais savoir, la fièvre hémorragique de Ebola a déjà parcouru aussi beaucoup de provinces dans notre pays, notamment dans ma propre province, dans la ville de Kikuit, en 1995. Et je me demande alors, comment le ministère de la Santé, jusqu'aujourd'hui, ne comprend pas quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour ne pas éradiquer, mais pour éviter la récidivité de cette épidémie. Si bien que, comme vous le dites, à l'est de notre pays, il y a la chose qui se
réveille.
C'est alors que l'on puisse sensibiliser toutes les autres personnes qui restent, notamment les gens qui sont dans les hôpitaux pour ne pas contracter cette maladie.
Voilà, merci Emmanuel. Donc là, votre inquiétude tourne autour de la sensibilisation, parce que vous craignez que cette maladie puisse connaître un cycle. Si nous référons à l'historique ou à l'histoire de cette maladie, nous remarquerons que la RDC a été frappée donc à l'Équateur en 76, au Bandundu en 95 et au Kasaï occidental en 2007, 2008 et 2009. Et actuellement, on parle de la province orientale. mentale. Donc, ça risque même d'embraser tout le pays après chaque 5 ans ou 6 ans. Nous verrons peut-être avec notre invité quelles sont les mesures qui sont prises pour que, disons, on puisse, selon vos propos, éradiquer ou encore éviter la récurrence, ou peut-être de manière récurrente, l'arrivée de cette maladie, la déclaration de cette maladie. Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, c'est Marcel Zuma.
Oui Marcel, que proposez-vous?
Oui, merci JR, je pense que c'est plutôt une préoccupation. Et la santé est avant tout une priorité, et elle doit être vraiment prise au sérieux. Il est vrai que la situation que nous vivons aujourd'hui d'Ebola est une situation qui n'est pas souhaitable. Mais du moins j'ai de l'inquiétude, puisque nous savons bien. Et il suffit que de tels fléaux, de telles maladies surgissent pour profiter à nos dirigeants. Puisque vous savez, aujourd'hui, les statistiques qui nous révèlent nos dirigeants ne rassurent pas. On peut dire aujourd'hui qu'il y a Ebola, mais est-ce que réellement il y en a? Ou c'est seulement des moyens que nos dirigeants cherchent justement pour s'enrichir sur...
Oui, oui, Marcel, vous avez l'information, comme tout le monde, que le virus s'est déclaré, en fait, on a fait la déclaration officielle de la maladie le 17 août, et je crois que nos amis qui sont dans la province, vous êtes à Kisangani, et vous avez des informations fraîches des sirops et des jadana. Je crois que vous pouvez peut-être nous confirmer, vous qui êtes dans la province orientale.
Oui, monsieur Gérard, je sais que cette déclaration officielle, nous tous, nous avons suivi. Et je voudrais vous rappeler qu'en 2010, le même cas s'est produit à Kisangani, on nous parlait de choléra. Mais des fois, on se rendait dans des hôpitaux ou partout, on ne voyait pas de personnes en fait, qui mouraient de cette maladie-là. Ou de...
Alors, pour le moment, est-ce que vous avez des informations qui proviennent des sirops ou qu'il y a effectivement des cas?
Oui, nous avons des membres des familles, nous avons des gens. Il est vrai que la mort est quotidienne, en fait. Bon, si on meurt, il n'est pas nécessairement que l'on meurt de cette maladie.
Mais voilà. Bon, d'accord. Ok. Donc, jusque-là, vous, à votre niveau... Oui, Marcel, donc, je comprends bien. À votre niveau, vous n'avez pas encore d'informations par rapport à la maladie, au niveau du sirop. Merci, Marcel. On prend Césaré, qui est à Issiro, effectivement, parce que c'est lui qui pourrait nous confirmer, parce que là, il est sur place. Césaré, vous êtes à Issiro. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes, et bonjour, son excellence invitée.
Alors, commencez d'abord, Césaré, par nous dire la situation sur place à Issiro. Est-ce que, à vos côtés, vous avez constaté qu'il y a des cas de gens qui sont victimes de cette fièvre hémorragique, un virus d'Ebola?
Oui, monsieur les journalistes, en tout cas, en dehors des commentaires, des données statistiques, je commence d'abord à saluer la prise de décision de son excellence, monseigneur Julien Andavo, l'évêque du diocèse d'Issiro-Niangara, laquelle décision interdit le fait de serrer les mains dans l'église pour les chrétiens. Si vous êtes chrétien catholique, vous êtes censé connaître à un moment de la messe, le prêtre dit que le Seigneur soit avec vous, et les chrétiens répondent et avec votre esprit. Après quoi, ils se serrent les mains. Parce qu'au niveau de l'église, cette décision a été vraiment à féliciter et était aussi entrée en application. Mais nous savons que le ministre qui est à votre institut là-bas, il était sur terrain ici. Il a vécu la situation à partir des données statistiques et épidémiologiques. Il est là pour interpréter. Mais certaines personnes sont en train de minimiser la situation sous prétexte qu'il y a plusieurs moyens de propagation.
Oui, oui, vous qui êtes sur place, Césaré, vous qui êtes...
Le jour au jour, nous constatons, nous voyons les cas qui surgissent ici au père, mais sinon de l'hôpital général. À présence des agents de MSF, nous ne savons pas quel sera le sort de la population iséroise en particulier et celle du district de Haute-Ouélé en général. Parce que nous vivons sous la crainte. Et donc, tout le monde craint tout le monde.
Donc voilà, merci.
Même au niveau des institutions publiques, telles que les marchés, les universités, les églises. Donc maintenant, là, on est vraiment sous l'embarras.
Voilà, donc merci Césarée de nous confirmer que effectivement l'Ebola sévit dans le district de l'Ituri, parce qu'on avait besoin de cette information. Donc là, vous nous apprenez également qu'il y a des partenaires traditionnels du gouvernement congolais qui sont à l'œuvre. Vous venez de citer la MSF, donc Médecins sans frontières. Nous allons voir ça avec notre invité 081-890-6315 pour participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, vous avez suivi Maître Machaka qui a posé également son inquiétude, hein, qui tourne autour de cette faiblesse de la surveillance. Est-ce que, à votre niveau, il y a quand même un renforcement de la surveillance autour de cette maladie?
Merci beaucoup. Je remercie Maître Machaka qui est intervenu à partir de Lubumbashi. Je voudrais rappeler, tout en retenant les observations, vous savez, on ne fait pas l'homme reste changeant, l'homme, il faut le surveiller continuellement, il faut le superviser, mais il faut avouer que par rapport à la situation particulière de la fièvre hémorragique d'Ebola, tous les services médicaux ont été sensibilisés et de surcroît le service de l'hygiène aux frontières ou le service de quarantaine internationale. Parce que, c'est vrai, il évoque les cas de ceux qui prennent l'argent et qui mettent les sous au niveau de la gare de la SNCC à Lubumbashi. Ce sont des cas pour lesquels nous allons instruire les services concernés à pouvoir vérifier parce que, depuis un certain temps, les instructions ont été données au service de la quarantaine quand quelqu'un doit avoir son carnet de vaccination, il faut le vacciner effectivement. Mais je confirme que nous avons renforcé les mesures à tous les niveaux pour que on puisse réellement surveiller et dans les contrées à problème, notamment dans la province orientale, des fiches particulières du voyageur sont remplies et même suivies par le personnel pour que nous puissions contenir cette maladie au niveau de la province orientale et surtout au niveau de la région concernée sans que même les autres zones de la province orientale ne soient atteintes.
Oui, monsieur le ministre, l'OMS ne recommande aucune restriction au voyage ou au commerce pour la République démocratique du Congo.
Non, d'ailleurs, je remercie le docteur Louis Sambo, le directeur de l'OMS Afro, qui nous a envoyé une délégation dont fait partie le docteur Choco, qui est l'un des responsables au niveau du desk Afrique de l'OMS et du règlement sanitaire international. L'OMS ne restreint pas les mouvements des populations. Donc, les gens peuvent se mouvoir normalement, mais il est tout simplement mis en œuvre un certain nombre de mécanismes que la RDC jusqu'à présent est en train d'observer et de respecter.
Voilà, nous avons aussi appris que les échantillons initiaux ont été analysés par l'Ouganda, mais pour des cas qui sont arrivés après les échantillons ultérieurs, voulais-je dire, ont été confirmés par les laboratoires installés sur les terrains à Isiro. Est-ce que vous pouvez nous en faire une idée très claire là-dessus?
Oui, merci beaucoup. C'est vrai que les premiers cas, nous avons eu les premières alertes au niveau de Dungu et les premières alertes au niveau du Siro. Les prélèvements ont été faits et envoyés au laboratoire d'Entebbe et au laboratoire d'Ouvry, qui est un laboratoire du CDC d'Atlanta, au niveau de l'Ouganda. Et c'est là que nous avons eu les résultats. Mais c'est vrai, vous comprenez qu'on avait d'abord, premièrement, un problème par rapport au transport des échantillons et nous devions attendre 4-5 jours, voire une semaine, pour avoir les résultats. Nous avions fait une demande au CDC d'Atlanta, la demande qui a été acceptée automatiquement et un laboratoire mobile a été mis en place au niveau de Isiro et cela nous permet, après chaque prélèvement, de pouvoir entrer en contact avec les résultats dans la journée. Ainsi donc, au moment où nous étions en train d'envoyer les échantillons, nous en avions fait une dizaine, mais aujourd'hui, nous en avons fait à peu près 85. Donc même les contacts sont en train d'être prélevés. C'est ici l'occasion de remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre Madame Tapogno, parce que quand je suis revenu de Isiro plutôt et que je lui ai expliqué l'importance de ce laboratoire, je tiens à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que le gouvernement de la République a décidé d'acheter ce laboratoire mobile. Donc, dans les tout prochains jours, la RDC va acquérir également ce laboratoire pour commencer à répondre de manière prompte chaque fois qu'il y aura des épidémies.
Innocent, vous êtes à Lubumbashi et Désiré à Isiro. Bienvenue dans cette émission. Innocent, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui. Voilà, que proposez-vous d'abord, quelle analyse vous faire de cette situation et que proposez-vous pour éviter la propagation de cette fièvre hémorragique à travers le pays?
Voilà, merci beaucoup. Je dis d'abord merci à la radio Capi. Je serai d'abord monsieur le ministre. Et nous sommes à Calicali-Nalola, je suis Albomachi. Bon, je pense que si vous allez remarquer avec moi, la maladie ici d'Ebola est beaucoup remarquée dans des milieux
ruraux.
Alors voilà. C'est pourquoi, si vous allez remarquer tout cela, c'est à cause de l'hygiénité. Déjà, on commence à les protéger. Moi, je vais proposer ceci. Pour éviter cette maladie, on peut vraiment faire comprendre à la population et nous faire comment ils peuvent parvenir à comprendre. Il faut former une commission qui peut descendre dans les milieux où se trouve cette épidémie-là pour quand même faire comprendre à la population que pour éviter la maladie, c'est calculer dans de telles conditions ou telles autres. Alors, pour arriver à tout cela, qu'est-ce qu'il faut? Au niveau provincial, on peut former les gens, et ces gens-là arrivent dans des milieux ruraux pour aussi former les gens qui, les villageois qui se trouvent de ce côté-là. Parce que, je peux vous dire qu'il est facile qu'un villageois puisse comprendre son frère et comprendre celui qui n'est pas à côté de lui à tout moment. Alors, s'il y a des gens à côté de ces villageois-là, nos confrères, qui ont quand même de maturité, ils les apprennent à tout moment qu'il faut éviter ça, il ne faut pas manger les animaux que vous trouvez dans des forêts qui sont morts, que vous ne savez pas quelle maladie qu'ils sont parvenus à mourir. Et là, je pense qu'on peut arriver à éliminer petit à petit cette maladie. Je peux vous donner encore une chose. Si vous remarquez au village, il y a de ces parents-là, même pour les vaccins qu'on peut donner aux enfants, il y a de ces parents-là qui refusent. Ils disent que non, des fois quand on donne les vaccins à nos enfants, ils sont exposés à plusieurs maladies, alors on ne peut pas amener nos enfants pour prendre les vaccins. Tout cela, il faut faire comprendre à nos confrères que non, le vaccin, c'est pour prévenir, c'est pour que cette maladie ne puisse pas atteindre nos enfants. Là, nous allons éliminer cette épidémie petit à petit. On n'aura pas de solution.
Oui, Innocent, je retiens que vous demandez, si possible, qu'il y ait une politique sanitaire particulière, voilà, donc qui peut être adaptée aux milieux ruraux et surtout au niveau de la sensibilisation. Il faut des bonnes stratégies et des approches appropriées. Merci, Innocent. Nous prenons Désiré qui est à Issiro. Bonjour, Désiré.
Bonjour, bonjour, Radio Capi. Bonjour, son excellence, monsieur le ministre.
Voilà, Désiré, que proposez-vous?
Oui, c'est Désiré, en réalité, depuis Issiro. Monsieur le journaliste, le cas de l'hémorragie, de la fièvre hémorragique à Ebola, c'est pas vraiment trop sérieux ici à Issiro. Lorsqu'on parle de la zone de santé de Viadana, parmi les premiers cas, il y a eu aussi des cas qui étaient sortis d'avant-l'air de santé. On parle de l'air de santé de Mbana. Et maintenant, si nous passons aux propositions, la première proposition est celle-ci. Pour arrêter la propagation de cette hémorragie, de cette fièvre hémorragique en RDC, précisément à Issiro, et puis dans la zone de santé de Viadana, il faut aussi doter le personnel soignant, donc le personnel médical, avec quelques matériels de protection. J'ai dit que le premier cas était aussi observé dans mon air de santé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas vraiment assez de matériel de protection. Vous voyez que lorsqu'il y a un malade qui se présente actuellement, moi aussi, avec la peur de la contamination, je peux aussi avoir peur de toucher au malade.
Donc,
il y a les moyens de protection.
Oui.
On peut faire les premiers soins nécessaires avant d'appeler les gens
Désolé, si je comprends bien, vous êtes personnel de santé. Vous travaillez dans un hôpital ou dans un centre de santé?
Dans un centre de santé. Dans la zone que je suis.
Oui, vous êtes infirmier.
Oui, je suis infirmier. L'infirmier titulaire de l'aide de santé, là où on a trouvé le premier cas.
Alors, dites-nous comment ça se passe là-bas, la prise en charge médicale. Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Les difficultés que nous rencontrons, premièrement, ce sont les moyens de protection. Parce que dès qu'il y a un malade, il y a quelques formations qu'on a déjà reçues. Donc, au niveau de la réception, comment réceptionner le malade. Et une fois reçu le malade, directement, nous faisons appel à l'hiérarchie au niveau du CIRO. Et c'est pourquoi, parmi aussi les propositions, je voulais aussi proposer à. Oui?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, je voulais aussi proposer à l'hiérarchie de doter aussi les personnes de santé avec les moyens de communication rapide. Parce qu'il y a aussi des cas qui se présentent dans des milliers qui ne sont pas accessibles à des téléphones. Si par exemple on donne les moyens de communication comme les touraïens, là aussi ça va aider au personnel soignant d'appeler les gens qui sont appelés à transporter les malades. Parce que nous, on a interdit à faire les transports des malades.
Donc il y a déjà, oui. Il y a déjà un problème de communication, vous n'arrivez pas à vous communiquer avec d'autres personnes qui sont dans des coins les plus reculés, hein, où la communication n'est pas possible, quoi.
Oui, oui, c'est ça. Donc, avec si on met à la disposition des personnels soignants, là où les réseaux n'est pas accessible avec des touraïas, pour essayer de communiquer directement à l'hiérarchie. Non, non, il y a tel cas ici qui se présente. Et autre proposition, il faut aussi renforcer la capacité des services de la médecine vétérinaire ainsi que le service de l'environnement. Parce que le virus a comme aussi une réserve d'animal. Donc, par la vaccination, les services vétérinaires peuvent faire des vaccinations et puis les services de l'environnement qui peuvent veiller dans d'autres commerces. Par exemple, on parle des cataractes ici. Donc, quelqu'un qui est dans la forêt, il trouve un gibier, il peut l'amener les deux pièces, on parle des cataractes aussi. Que les services de l'environnement peuvent aussi veiller
sur
les services de l'hygiène publique qui doivent aussi vraiment mettre les batteries en marche.
Merci beaucoup, Désiré. En tout cas, merci beaucoup, Désiré, d'avoir apporté cette contribution si riche. Hein. Là, nous retenons qu'il faudrait une synergie entre le ministère de la Santé et celui de l'Agriculture, surtout impliqué dans la lutte contre cette fièvre hémorragique à virus Ebola, les médecins vétérinaires, pour qu'en fait, nous puissions avoir le résultat escompté. Ibrahim, vous êtes à Goma. Bonjour Ibrahim.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà Ibrahim, que proposez-vous?
Moi je vais être direct. Je voudrais dire que dans cette situation, notre gouvernement doit être sérieux. Et sérieux, je vais parler en termes de recherche. Nous ne devons pas toujours attendre que les maladies nous surprennent. Ailleurs, il y a des souches médicales ou des médicaments en phase expérimentale que lorsqu'il y a un cas, une chirurgie, on essaie de vérifier dans des souches expérimentales pour voir si ça peut servir comme remède à un cas qui a surgi. Et donc là, je vais demander à ce que le ministre et ses services puissent voir comment mettre une équipe permanente qui va faire des recherches pour trouver des remèdes ou soit l'antidote à cette épidémie qui s'annonce, qui fait déjà annoncer et qui fait déjà des morts. Et la deuxième chose que je demanderais, c'est que il faut qu'on mette des points d'isolement dans les grands centres ou hôpitaux en province. Parce que la plupart des fois, en province, nous sommes en train de constater que c'est comme si on n'a pas encore tenu compte des provinces. Lorsqu'il y a de tels cas qui surgissent, ça touche directement beaucoup de gens et on ne sait pas comment les maîtriser. Alors que ce sont des maladies contagieuses. Si on ne prend pas garde, nous risquons d'embraser toute notre société. Une autre chose que je proposerais, c'est de former un personnel sanitaire en équipe de décontamination ou de quarantaine. Parce que ça aussi, nous avons appris qu'en Équateur, il y a des gens, même des médecins qui sont morts, parce qu'ils ne sont pas protégés, ils n'avaient pas aussi tous les outils nécessaires pour prendre soin des malades, et ils ont été infectés ou contaminés. Une autre chose que je proposerais, qu'on interdise la consommation carrément de viande boucanée jusqu'à nouvel ordre, parce que nous avons appris que l'origine ou la genèse de cette maladie proviendrait de la consommation des animaux et surtout des animaux qui sont morts. Mmh. Donc je crois que c'est important qu'on propose une mesure d'éradiquer ou
d'interdire
aux gens de consommer cette viande boucanée. Et pour être beaucoup plus sévère, peut-être, et pour ne pas permettre la propagation de cette pandémie, je proposerais, en tout cas, lorsqu'on a constaté des cas pareils, des gens qui sont atteints par cette maladie, que l'on puisse carrément appliquer l'euthanasie, même si la Constitution peut-être ne le permet pas, qu'on puisse peut-être précipiter leur mort, parce que nous risquons, tellement que nous n'avons pas tous les outils nécessaires, nous n'avons pas encore fait toutes les recherches nécessaires, ce ne serait pas prudent de laisser ces gens en quarantaine
alors qu'on n'a pas tous les moyens nécessaires pour se protéger contre les gens qui sont contaminés ou infectés. C'est en ce terme-là que je voudrais aussi placer un mot ou intervenir dans les quelques pistes de propulsion.
Merci beaucoup, Ibrahim. On termine cette première série avec Eric Kétakassoumalessa. Bonjour, Eric.
Bonjour, cher présentateur. Bonjour à tous les producteurs de la Radio Kati.
Voilà, Eric, comment réagissez-vous?
Merci. Par rapport à cette épidémie d'Ebola qui fait rage dans différentes forêts, vous savez, elle est dangereuse, cette maladie. Et c'est une maladie à ne pas négliger, parce qu'il n'y a que des cas de décès enregistrés et autres. Et que le gouvernement fasse un effort pour éradiquer ou remédier à cette épineuse maladie. C'est sur le gouvernement doit prendre des mesures, entre autres celles de sensibiliser d'abord la population. Ou sinon les gens vont mourir comme des animaux. Et moi je pense que le ministre de Santé m'écoute en ce moment. Et notre pays ne doit pas être un dépôt de couper du palais. C'est-à-dire, ici la guerre, là-bas la chèvre d'Ebola. Et il suffit d'abord de sensibiliser la population, ou sinon nous sommes exposés à cette maladie d'Ebola. Moi c'est ça ma préoccupation.
Merci beaucoup, Eric. Monsieur le ministre, vous avez suivi les uns et les autres. Je pourrais résumer peut-être leurs propos.
Peut-être pour gagner le temps, je peux revenir parce que j'ai quand même les grandes préoccupations. Parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a eu, ça fait 8-7 intervenants. Et je n'avais pu répondre aux questions de notre machaka. Oui. Je pense que très rapidement, je peux ramasser les autres questions pour donner quelques précisions. D'abord, je tiens à remercier tous les participants à l'émission. Et cela prouve qu'il nous accorde un intérêt particulier à la santé de nos populations. Emmanuel de Tikwit est revenu sur un point important. Bon, bien sûr, son observation, il pense que le ministère ne sait pas quoi faire pour éviter la résurgence. Il faut sensibiliser d'autres provinces pour éviter la maladie. Je voudrais peut-être, de manière globale, répondre sur la sensibilisation, parce que j'ai vu que Ibrahim est revenu sur ça, Eric est revenu sur ça. La sensibilisation, c'est peut-être la chose la plus importante pour limiter cette chaîne de contamination. Et aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous avons un plan de communication par rapport à Ebola. C'est vrai que ce plan est un peu plus avancé au niveau du Siro et Viadana, où nous avons directement la zone d'épidémie, mais ce plan a été étendu sur l'ensemble de la République. Voilà pourquoi nous intervenons sur Radio Kati, sur tous les médias à obédience nationale, mais au niveau du secteur médical, nous avons pu sensibiliser tous les médecins chefs de zone de santé qui ont été sensibilisés parce qu'ils savent que la fièvre hémorragique est une maladie à surveillance obligatoire. Mais je voudrais, dans le même temps, parce qu'il y a des questions qui reviennent, revenir également sur le fait qu'on parle de l'éradication, le gouvernement ne prend pas au sérieux, le gouvernement doit mettre sur pied des mesures de recherche. J'aimerais vous dire que par rapport à l'éradication, c'est très difficile. C'est très difficile pour le moment. Pourquoi ? Parce que le réservoir de cette maladie, c'est l'animal. Donc, nous n'avons pas à aller tuer tous les animaux parce que nous ne savons même pas où se situent les animaux qui ont ce virus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ici au Viadana, la province orientale n'a jamais été affectée par spécifiquement la fièvre d'Ebola. Nous avons eu d'autres types de fièvre hémorragique. Donc, c'est principalement, comme je le répète tous les jours, on parle de la chauve-souris frugivore, on parle du singe, on parle de l'antilope de bois, du porc épic, parfois le porc dans les communautés. Donc il est très difficile, voilà pourquoi nous disons que la sensibilisation, le contact entre l'homme et l'animal doit être limité au mieux possible. Ici, je remercie parmi les mesures qui ont été prises par le gouverneur de la province orientale, l'interdiction de la chasse du 1er août jusqu'au 1er novembre. Et nous pensons que si l'épidémie va au-delà, nous serons obligés de lui demander de proroger cette date. Et donc, il est important que nous puissions rappeler ici, comme la question que M. Désiré a posée sur l'implication des autres services, moi je tiens à remercier le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Agriculture, Élevage, Pêche et Forêt, que nous avons saisi et qui ont pris des décisions par rapport à leur secteur. Donc, au moment où nous parlons, une équipe de l'environnement, une équipe de vétérinaires sont en train de travailler dans le secteur toujours pour nous aider à comprendre davantage ce phénomène. Marcel de Kisangani, je voudrais quand même revenir sur les propos de Marcel de Kisangani. Vous savez, la radio Kapi est suivie à travers le monde. Quand des compatriotes doivent tenir le langage et dire que le ministère de la Santé, le gouvernement a donné des fausses informations pour que nous puissions chercher de l'argent pour nous enrichir, c'est très grave. Heureusement que vous avez suivi ces arrêts, vous avez suivi des idées et qui sont intervenus directement par ce ministère. C'est vrai, peut-être vous pouvez le dire quand vous êtes très loin de cette communauté. Mais quand vous êtes à Itiro et que vous voyez des gens en train de mourir, ça fait mal, comme le disait César, que certaines personnes minimisent la situation. C'est vrai, quand vous êtes loin, vous pouvez minimiser. C'est une situation réelle et des vies humaines sont en train d'être perdues. Pour moi, en tant que ministre de la Santé, même s'il y a une personne qui meurt pour un problème particulier de maladie qui pouvait être évitable, ça doit être un problème sérieux parce que c'est un problème de santé publique. Donc je tiens à rassurer M. Marcel qu'il y a bel et bien épidémie et le gouvernement, nous n'avons pas intérêt à nous enrichir sur le dos des personnes qui sont en train de mourir. Le gouvernement a donné un premier lot de 150 000 $, donc de 136 millions de francs congolais qui ont été dépensés au vu et au su de tout le monde jusqu'au moindre franc congolais. Je vous informe que le Premier ministre vient de donner encore un autre compte pour le compte du gouvernement de 100 millions de francs. Et bientôt, parce que nous avons suivi M. Désiré qui a insisté sur les moyens de protection du personnel, il y a un certain nombre de matériels, aussi bien de protection que des vélos, des motos qui ont été donnés par nos partenaires. À peu près 4 tonnes de matériel, nous allons affecter, nous allons travailler avec la MONUSCO et éventuellement nous aurons même la possibilité d'affréter un avion pour que tous ces matériels arrivent le plus tôt possible et que ça arrive au plus près de la population bénéficiaire.
Oui, donc, monsieur le ministre, semble-t-il que possible l'épidémie déclarée cette année est causée par le sous-type Ebola, Boudi Boujo, qui est différent de souches habituelles hein, qu'on a connues en 76, en 95 et en 2007.
Oui, c'est vrai. C'est quand on les classe par rapport à la virulence, l'espèce Boudi Boujo vient en troisième position après l'espèce Zaïre qui a sévi dans toutes les épidémies de la RDC et l'espèce Soudan qui a sévi en Ouganda. Mais nous, en tant que personnel de santé, moi, en tant que ministre de la Santé publique, quelle que soit l'espèce, du moment que cette espèce est en train d'entraîner la mort des vies humaines, imaginez sur 73 personnes atteintes à ce jour, 31 personnes sont décédées. Donc, l'importance avec laquelle nous prenons la prise en charge de cette épidémie reste la même, M. Gérard.
Voilà, nous allons prendre une deuxième série hein, rapidement des auditeurs, tout en rappelant aux autres qu'ils peuvent également nous rejoindre et aussi nous faire parvenir leurs commentaires et leurs préoccupations au 081-890-63-15.
Radio Kapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole et si vous nous rejoignez, bienvenue. Edemaga, vous êtes à Boutembo et Jean-Pierre Aïssiro. Edemaga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Voilà, Edemaga, quelles sont les propositions que vous allez faire en ce moment où la fièvre hémorragique d'Ebola sévit, en tout cas dans la province orientale?
Oui, en fait, par rapport au sujet du jour, je pense que notre gouvernement doit d'abord se plier profondément dans la sensibilisation et doter aux infirmiers le matériel pour la protection. Vous savez qu'en RDC, notre gouvernement toujours le mauvais système et quand des épidémies pareilles commencent à attaquer les milieux, ils veulent que ça commence à attaquer d'abord des vêtements en allant comme ça, ils vont prendre des précautions pour les milieux en question. Vous savez que la situation qui est actuellement qui rage vraiment la
population,
qui aussi le gouvernement prenait des précautions bien avant que ça n'allait pas quand même arriver à ce niveau.
Bon, je crois qu'à ce niveau, avec des projets tels que nous avons suivi notre invité, on commence toujours quelque part avec l'installation d'ailleurs de ces laboratoires mobiles. Je crois qu'il y aura sûrement d'autres projets qui seront initiés dans le sens de pouvoir déjà en amont prendre à bras les corps certaines questions sur la santé publique. Merci Edemaga.
Je reste avec une seule préoccupation que je
pense. Oui, rapidement poser parce qu'il y a d'autres qui sont en ligne qui attendent.
Ok, merci. Ma préoccupation est celle-ci. Quel matériel peut-on doter pour les infirmiers pour la protection à part les gants et les masques? C'est cette petite préoccupation que l'invité pourra me donner la réponse.
Merci beaucoup, Edemaga. Jean-Pierre, vous êtes à Issiro. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour à vous et bonjour à l'excellence, monsieur le ministre de la Santé.
Voilà, que proposez-vous?
Et d'abord, je commence par féliciter les ministres, puisque c'est rare qu'il y ait un problème, mais surtout de l'épidémie comme de l'Ebola, que vous puissiez voir les ministres venir lui-même sur terrain et parcourir nos routes vraiment qui sont dans un état regrettable. Il est parti jusqu'à Djedama, il est rentré par route vers Wamba pour passer à Kisangani. Nous avons beaucoup apprécié cela, voir qu'il est descendu sur terrain. Il a même rencontré l'une des personnes qui souffraient de l'Ebola. Nous apprécions beaucoup ça. Et notre proposition maintenant, c'est d'abord...
Oui, d'abord une précision, Jean-Pierre, parce que vous êtes là ici, il y a Désiré qui nous a confirmé. C'était une intervention qui venait d'ailleurs d'être différente de celle de Marcel, hein, qui est loin vraiment des Sirons. Vous êtes sur place également. Vous pouvez nous confirmer que la situation elle est vraiment très, très alarmante et très préoccupante.
Oui, je vous assure, la situation est vraiment préoccupante puisque, vous savez, depuis que ça a commencé, le nombre des personnes malades ne fait que s'augmenter et ni quitter que les ministres puissent, donc, qu'on puisse avoir ces laboratoires là, je pense que la situation là est encore grave. Puisque je disais là que la maladie a commencé mais on ne savait pas. Même quand les ministres ont appris de cela, ils sont impliqués, nous avons eu des laboratoires qui sont arrivés et on a commencé à tester sur place des personnes et directement on détecte qui est malade et qui ne l'est pas. Et les malades, on les met dans l'isolement et on a cité le nombre de morts. Donc je voulais donc dire là qu'il y a aussi des milliers qui sont réquilés, qui sont aux environs des villes du Siro. Et vous savez, la population qui est là est aussi pauvre, ils n'ont pas tous des radios. Alors là, ils font une très forte sensibilisation dans ces milieux réguliers. Et cela, je félicite les feux aussi qu'ils puissent avoir des moyens. Donc, il y aura les moyens des transports et les bicyclettes pour rapprocher encore la communication sur ces points-là. Et ça c'est apprécié.
Mais c'était également le souhait. Jean-Pierre, c'était également le souhait de Désiré, Annalie, qui a appelé du Siro, comme vous, hein. Qui a souhaité que...
Je voulais ajouter quelque chose.
Oui, rapidement.
C'est que nous voulons demander à ceux qui, quand on va dispatcher ces matériels-là de protection des infirmiers, qu'on ne puisse pas prendre seulement les places qui ont été déjà, où on a déjà remarqué les malades, mais qu'on puisse cibler tous les autres centres qui sont en train d'environner les milieux qui ont été déjà contaminés, puisqu'il y a des milieux où les malades ont été retrouvés, mais les médecins ont eu peur de rapprocher ces malades.
La prise en charge
n'est pas... On n'a pas les matériels de protection. Et là, c'est dangereux. Et quand cette personne rentre dans la communauté, il peut encore contaminer les autres. Ou bien lorsqu'on l'amène là-bas pour apporter à Issiro, c'est dans les 30 de kilomètres, il peut encore avoir des autres personnes qui peuvent être contaminées. Et les moyens de communication seront aussi.
Merci beaucoup, Pierre. Nous consultons, nous disons, on répète que c'est quand même un plaidoyer que vous faites pour des cités environnantes, hein, d'Issiro. Là, vous avez parlé des cités qui se trouvent peut-être à 30 kilomètres d'Issiro. Il faudrait qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse penser aussi à ces gens, parce que les médecins ne sont pas là. La prise en charge n'est pas vraiment assurée. Jean-Pierre, merci. Et là, nous restons toujours dans la province orientale avec Poco, Jean qui est à Poco. Poco, c'est comme à Faradje, là où il y a eu aussi des cas suspects qui ont été déclarés, mais finalement, c'était après examen, donc ces cas ont été déclarés avérés négatifs. Jean, vous êtes à Poco, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, pour procéder un peu à la situation actuelle au niveau des propos, parce que les informations que nous avons, il y a eu effectivement des alertes, hein, des cas d'alerte. Mais après l'examen des échantillons du sang au laboratoire, et ces cas se sont avérés négatifs. Est-ce que vous nous confirmez cela?
Oui, j'ai atterri des propos dans la zone des passés de Diadana. Je m'associe à mon premier titulaire qui vient de parler maintenant, M. Désiré Analyste. Vous vous rappelez vraiment des situations qui se passent ici dans la zone des santé de Diadama. Lors du passage de son excellence, M. le ministre de la Santé publique,
Docteur Félix Cabané,
c'est plusieurs hommes de santé qui étaient touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais selon les rapports de l'OMS, ces jours, si je ne m'abuse pas, c'est deux zones de santé qui sont les plus touchées. Il y a la zone de santé de Diadama et Gifuré. Et la zone de santé de Diadama est une zone de santé rurale, donc à caractère rural. Ici, la population vit de l'agriculture, la pêche et la chasse. Et il faut bien voir, la zone de santé de Diadama comprend quatre chefferies. Et ces quatre chefferies, c'est ces quatre chefferies qui nourrissent la ville d'Isère avec la viande fraîche. Alors, votre problème est celui de la catégorisation. Je sais que M. le ministre avait de ces quatre types de carburant pour des radios locales utiles. Mais la catégorisation qui se passe dans des radios, c'est le contraire de ce qui se fait donc, au milieu rural. Nous, il faut vraiment former des gens à la base pour la sensibilisation. Sinon, la sensibilisation à la radio est ce qui est à la base et le contraire. En tout cas, nous demandons au ministre qu'il lève
si possible, le mobilisateur,
donc le moyen pour que la sensibilisation soit efficace avec ensemble les polices contre cette épidémie.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je retiens que vous proposez qu'il y ait une équipe très forte, efficace pour sensibiliser sur le terrain avec des moyens de communication appropriés afin d'atteindre même les couches les plus reculées. Merci Jean d'avoir appelé de Poco. Là, nous sommes dans la province orientale. On va terminer avec Étienne de Guémena avant d'accorder encore la parole à notre invité pour que nous dirigeons petit à petit vers pour citer donc dans cette émission. Étienne, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Ah, bonjour Ado Capi, bonjour à tous les carreaux de Guémena.
Voilà, Étienne, comment réagissez-vous?
Ok, merci monsieur le journaliste. Je suis très ravi de voir que son excellence, monsieur le ministre, soit l'invité. À mon avis, je pense que les petites maladies éradiquées sous d'autres cieux et à travers le continent africain restent et demeurent une maladie fréquente en RDC. Monsieur le journaliste, pour parler de la fièvre hémorragique d'Ebola, je voudrais d'abord parler de cette épidémie qui avait frappé la RDC, surtout la province de l'Équateur, précisément le territoire de Bunga et le village de Yamboukou. Cette maladie s'était suivie à trois reprises où une centaine de personnes avaient été décédées. Monsieur le journaliste, cette maladie qui aujourd'hui déjà a attaqué plusieurs personnes, voire même le personnel soignant, le corps soignant, comment maintenant la paisible population sera en mesure de se protéger pendant que les corps soignants sont eux-mêmes attaqués par cette maladie? À mon avis, je pense que notre gouvernement devrait nécessairement mettre des moyens conséquents de sorte qu'on puisse mettre fin, éradiquer réellement ces maladies qui sévissent encore en RDC. Aujourd'hui, il n'y a aucune sécurité sanitaire. Donc, les gens, là où, dans la province de l'Équateur, là où la maladie est en train de sévir, se promènent, ils voyagent, et imaginez que dans 5 ans, on concentrera de la maladie, bon, maintenant, c'est pas aussi tout l'état de la République. Je ne sais pas, le ministre est-il là au plateau? Quelles sont les mesures sécuritaires? Quelles sont les mesures sanitaires qu'on a mis sur pied pour pouvoir sécuriser la population congolaise et surtout la population de la province orientale où la maladie est en train maintenant de faire causer des morts?
Voilà.
La population donnée par son état, monsieur le ministre, on ne sait pas. Selon certaines sources sur le lieu,
On nous informe que beaucoup de gens sont en train de trépasser, de mourir à cause de cette maladie. Pas de prise en charge réelle, mais alors qu'est-ce qu'on peut réellement faire en sorte que un pays riche comme la RDC, que de toute maladie qu'on doit éradiquer à bout de temps, reste demain une maladie efficace au pays, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Étienne. Donc là, vous insistez encore sur le renforcement de la surveillance hein, parmi les activités de lutte qui sont entreprises contre l'épidémie de fièvre et Ebola. Merci. On va prendre Aloïs qui va conclure cette émission, donc qui sera l'honneur de conclure cette émission. Aloïs, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour monsieur Gilles et bonjour à son excellence monsieur le ministre.
Que proposez-vous rapidement? Vous avez 40 secondes pour conclure avant que nous accordions aussi la parole à notre invité pour conclure cette émission.
Merci monsieur. Bon, je vais encore aborder l'émission dans le même sens que mes prédécesseurs. D'abord, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une forte budgétisation pour, n'est-ce pas, cadrer cette budgétisation là dans le secteur d'éradication de la maladie d'Ebola. Maintenant, dès que la budgétisation est déjà faite, je vais cadrer mon intervention en deux moments. Nous avons, le premier moment, c'est celui qui concerne le milieu où la fièvre d'Ebola n'est pas encore décrétée. En ce moment-là, je voudrais, selon moi, que l'on puisse préciser n'est-ce pas toutes les causes, parce qu'on dit très souvent, on doit, n'est-ce pas, attaquer le mal par les racines.
Oui.
À ce moment-là, dès que toutes les causes où les origines de Ebola sont déjà décrétées ou annoncées, à ce moment-là, on pourra faire une forte vulgarisation pour dire que toute la population soit au courant de ces origines-là. Et à ce moment-là, tout le monde fera l'effort pour éviter à ce que l'Ebola ne puisse pas atteindre, n'est-ce pas, la population en question.
Et donc vous insistez sur la sensibilisation premièrement. Et deuxièmement?
Deuxièmement, c'est par rapport aux endroits où la fièvre de Ebola est déjà décrite. Bon, on a parlé, parce qu'ici, à travers notre fond, lorsque cette fièvre...
Allez-y rapidement, voilà, Aloïs, c'est dommage parce qu'on n'a plus assez de temps. Hein. On va peut-être retenir que les interventions tournent autour de la sensibilisation. On va accorder la parole pour conclure à notre invité, monsieur le ministre. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, en conclusion, parce que selon les informations qui sont les informations en notre possession, il y a eu quand même des particularités par rapport à cette lutte. En fait, il y a même une femme qui était touchée par une femme enceinte hein, qui était touchée par le virus d'Ebola et qui a accouché sans problème, mais on ne sait pas par quel miracle.
Merci beaucoup. Bon, par rapport à la prise en charge, il faut remercier l'équipe de MSF et les compatriotes congolais qui sont là, qui sont en train de prendre en charge de manière correcte les différents cas. Mais j'ai malheureusement le regret de vous annoncer que la dame qui s'est accouchée est décédée, mais l'enfant est encore vivant et il est sous surveillance au niveau du centre de Isiro. Mais permettez-moi quand même, Monsieur JR, au moment où je vais... Allô?
Oui, allô, pour conclure.
Oui, au moment où je suis en train de conclure, je préfère prendre quelques questions quand même très importantes. Nos amis qui sont à Isiro ont insisté sur la sensibilisation dans le milieu rural. Quand je suis arrivé à Isiro, j'ai laissé des mégaphones. Je remercie l'UNICEF dans le lot de matériel qui vont encore aller à Isiro. Il y a encore une centaine de mégaphones avec des piles. Nous voulons vraiment mettre en jeu ou en partenariat tous les relais communautaires, tous les leaders sociaux pour que vraiment la sensibilisation par des mégaphones aille jusque dans les milieux les plus reculés. Ibrahim qui demandait à ce qu'on puisse tuer, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'euthanasie, c'est raccourcir la vie de ceux qui sont en train de mourir d'Ebola. C'est trop fort, nous ne pouvons pas le faire en tant que ministre de la Santé parce que d'abord, toutes les personnes qui ont Ebola ne meurent pas. Il y en a qui ont survécu, que nous avons eu à visiter. Donc on n'a pas le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un. Interdire la consommation de viande boucanée, je dirais non, parce que en fait le virus ne survit pas sur de la matière sèche. Or, la viande boucanée, ça veut dire qu'on a déjà séché la viande et qu'on ne sait plus à ce moment-là. Mais ce qui est dangereux, c'est la viande, le sang, le contact avec le sang. Donc, je voudrais quand même remercier la plupart de nos auditeurs auditeurs. Les questions sont très nombreuses. Nous ne saurons pas répondre à toutes les questions, mais je retiens également qu'il faut continuer dans la protection du personnel sanitaire. Mais je rappelle à tous les personnels de santé qui nous suivent à travers la République que nous ne saurons pas donner du matériel à tous les niveaux. Mais ce qui est important, c'est l'hygiène, les règles d'hygiène. Se laver les mains après le contact avec chaque malade, cela déjà est suffisant pour protéger contre la propagation de cette maladie. Et cela est valable à toute la population qui est en train de nous suivre, à ceux qui sont dans le milieu de zones endémiques. Quand quelqu'un souffre d'Ebola, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas toucher ses humeurs ou ses liquides, il ne faut pas toucher ses vêtements, il ne faut pas toucher tout ce qu'il est en train d'utiliser. Et aux autres, nous disons toujours dans la zone que quand vous trouvez un animal malade ou mort, il faut éviter justement de pouvoir pour dépiécer cet animal de peur qu'au contact avec le sang, vous soyez contaminé. Pour le reste, nous tous qui avons suivi cette émission sur Radio Capi, je nous demande d'être des mobilisateurs, d'être des sensibilisateurs et de porter l'information auprès de ceux-là qui n'ont pas eu ou qui n'auront pas la chance de suivre de nouveau cette émission. Je vous remercie.
Oui, j'imagine que c'est quand même aussi une nécessité de la protection du personnel de santé, comme l'a demandé particulièrement Désiré, monsieur le ministre.
C'est très important parce que j'ai dit quand je suis allé à Isiro, nous avons commencé par là et je pourrais vous dire que pour les cas que nous avons décriés de personnel de santé, tous les cas que nous avons eus sont rétrospectifs. Depuis que nous avons commencé la surveillance de l'épidémie et que nous avons déclaré l'épidémie, nous n'avons pas eu encore un cas, jusqu'à ce jour, un cas de personnel de santé. Du matériel a été disponibilisé sur place et nous allons continuer dans le lot qui va partir. Il y a encore du matériel de protection pour le personnel de santé. Mais M. Gilles, je voudrais peut-être rappeler que ce matériel de protection est stratifié. Tout le monde ne peut pas porter la tenue de cosmonaute parce que cette tenue de cosmonaute, elle est réservée à ceux qui entrent en contact dans l'isolement avec les malades atteints d'Ebola. Mais les gants, les tenues, d'autres matériels de protection ou de désinfection tels que le chlore, le javel, ça, nous avons l'obligation et nous sommes en train de nous y atteler pour que le personnel de santé soit protégé.
Dr. Félix Kabangé-Numbi, vous êtes ministre de la Santé publique. Merci et d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, M. Gilles.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Kouké et Pierre Lamégi l'ont réalisé. Et Jérôme Guimbo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Ben Kabamba. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Demain, l'émission Parole aux auditeurs va se concentrer sur la rentrée parlementaire intervenue le week-end dernier et qui sera essentiellement budgétaire. Cependant, plus d'un observateur pense qu'il y a d'autres priorités qui peuvent être inscrites également à l'ordre du jour. Selon vous, que doivent être notamment des questions prioritaires à inscrire à l'ordre du jour de cette session parlementaire? C'est la question qui sera au cœur du débat. Est-ce que vous voulez déjà pour y participer à l'adresse ca@radiocapi.net. À très bientôt.